Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Les journées d'études qui nous réunissent ces 1er et 2 juillet autour du thème général des radios associatives et communautaires s'inscrivent dans l'espace et dans le temps. Il est en effet question de dresser un état de ces radios et d'envisager leurs perspectives. Dans l'espace, nous aurons l'occasion d'approcher la réalité de radios communautaires sur pas moins de 3 continents, Afrique, Amérique du Sud et Europe. Comment y est déclinée cette catégorie d'opérateurs radiophoniques? Quelle est la place de ce média communautaire face aux radios publiques, pas toujours de service public, face aux radios privées et commerciales, voire lorsqu'il n'existe aucune autre radio? Quelle place occupe ce média face à la télévision et par rapport aux nouveaux médias qui se développent et peuvent présenter des similitudes avec les radios associatives et communautaires, telles qu'apparues au début des années 80 en Europe? Coût de production et de diffusion réduit, interactivité avec le public, initiative privée non commerciale. Dans le temps, il vous sera proposé d'aborder la réalité actuelle des radios communautaires, mais aussi de projeter celle-ci dans un avenir. S'agissant précisément du temps, je crois utile de vous faire part de 2 réalités historiques, propres à la Belgique et à la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Si chacun associe immédiatement l'année 1914, au début de la Première Guerre mondiale, peu de nos concitoyens savent que c'est aussi en 1914 que débuta l'aventure radiophonique belge. L'expérience fut certes de courte durée, puisque l'émetteur expérimental installé dans les jardins de la résidence royale à Laeken fut démonté dès le déclenchement de la guerre. Il faudra ensuite attendre le début des années 20 pour voir apparaître les premières radios privées, développées notamment par des constructeurs de récepteurs comme SBR, puis 1930, et la création de l'Institut national de radiodiffusion, l'INR. La radio est donc bien dans sa 100e année en Belgique, et il fallait le souligner. Plus près de nous, et plus en phase avec le thème de ces journées d'études, il faut noter que la renaissance du secteur privé de la radio en Fédération Wallonie-Bruxelles, dès la fin des années 70, a d'abord été conçue légalement sous l'angle des radios communautaires. En effet, le premier décret qui organisera en 1981 le statut des radios locales conçoit celles-ci comme des médias strictement locaux. Elles s'adressent au maximum à une agglomération urbaine. Les radios locales doivent favoriser l'accès des citoyens à l'antenne. Quant au programme, il doit viser prioritairement la promotion sociale, culturelle, civique et l'éducation permanente. Ces radios doivent se consacrer plus particulièrement à l'information et à l'animation locale, locale étant au pluriel. Indépendantes des pouvoirs publics, les radios locales doivent réunir au moins une fois par an une assemblée publique permettant une rencontre entre les responsables de celle-ci et les auditeurs. Il leur est interdit de faire partie d'un réseau d'émetteurs et de poursuivre un but commercial. 3 décennies plus tard, force est de constater que le modèle dominant de la radio privée n'est plus celui des radios communautaires et associatives, le président l'a souligné. Ces radios représentent encore une 20aine d'émetteurs sur la 90aine de radios, dont des réseaux, radios privées donc actives aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre paysage radiophonique a évolué pendant ces 30 ans, notamment sous l'effet d'une concurrence entre opérateurs privés et de services publics. Si à chacune des évolutions de ce paysage, les radios communautaires et associatives ont toujours été prises en considération tant par les pouvoirs publics que par les opérateurs en concurrence, il faudra attendre 2008 et 2010 pour voir ces radios stabilisées d'un point de vue technique, comme l'ensemble du paysage, mais aussi économique. 2008 verra en effet le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuer pour 9 ans les autorisations à l'ensemble des radios privées, dont les radios associatives. À partir de 2010, grâce à une contribution imposée tant à la RTBF, le service public, qu'aux réseaux commerciaux, les radios communautaires et associatives reconnues comme telles auront accès à un financement public sur une base forfaitaire. Soucieux de garantir le pluralisme et la diversité culturelle, le CSA prendra en compte les radios associatives et communautaires au moment d'attribuer les autorisations d'émettre aux radios privées. Nous étions en 2008. En ayant observé la situation d'alors de ces radios, le CSA va prévoir, dans une recommandation exposant sa méthode de travail dans l'analyse des demandes d'autorisation, donc il expose que les radios dites d'expression se verront réserver, par exemple, un quart des fréquences disponibles dans les grandes villes. Ces radios dites d'expression, on a un problème de terminologie, parfois elles sont associatives, parfois elles sont communautaires, et maintenant nous avons nous utilisé à cette fin les radios d'expression, en sachant qu'il y avait aussi une autre catégorie de radios communautaires, mais qui visait des radios destinées à des communautés plutôt culturelles. Donc ces radios d'expression, selon la terminologie de 2008, sont sans doute celles qui correspondent le plus à la catégorie des radios associatives et communautaires qui retiennent notre attention aujourd'hui. Dans une définition donnée de ces radios d'expression, nous retrouvons en effet les éléments suivants. Pas ou peu de ciblage d'un public particulier. Dans les statuts ou le projet, mention d'un objectif de renforcement de la diversité culturelle par la diffusion de contenus pas ou peu représentés dans les médias. Grille de programme mosaïque, grande diversité interne de contenu, programmation décentralisée. Programmation musicale alternative, présence de création radiophonique, présence de contenu à vocation d'éducation permanente, présence de tranches horaires concédées à des groupes n'ayant pas accès aux médias traditionnels ou à des minorités culturelles, fonctionnement non marchand, soutien d'institutions à caractère socioculturel et ou d'éducation permanente. Cette définition est bien entendu propre à la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Si l'avenir technologique n'est pas le sujet prioritaire de ces journées d'études, il convient de l'envisager et d'être attentif à la place des radios associatives et communautaires dans le futur paysage de la radio numérique, essentiellement terrestre. Dans la mesure où, dans notre fédération du moins, ces radios ont une vocation plus locale, c'est l'architecture du plan des fréquences numériques qui devra intégrer leurs spécificités en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle. Le CSA y sera attentif. Mesdames et messieurs, en co-organisant son colloque annuel avec le RESIC, le CSA a entendu consolider les liens que le régulateur audiovisuel tisse depuis de nombreuses années avec le monde académique. Son service des études et recherches, dirigé par Muriel Anneau, est le moteur de cette coopération qui amène le CSA à accueillir de nombreux stagiaires universitaires et à délivrer chaque année son prix du mémoire. De jeunes diplômés sont très régulièrement engagés dans le cadre de mandats de chercheurs. Un centre de documentation consacré à la régulation audiovisuelle est ouvert aux étudiants et chercheurs. En consacrant son colloque annuel à un aspect de la radio, le CSA s'intéresse au secteur où la régulation audiovisuelle, alors balbutiante, a pu s'exprimer pour la première fois. C'est en effet dans le monde des radios libres du début des années 80 qu'est apparu en 1982 un ancêtre du CSA sous forme du Conseil des radios locales et indépendantes. Certains membres sont présents dans la salle. Un conseil alors strictement consultatif, représentatif des différents courants qui animaient alors le bouillonnant monde de la radio et qui aura la tâche difficile, de longue haleine, de présélectionner les radios qui auront finalement accès aux trop rares fréquences FM disponibles.